Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow.
Bonsoir à toutes et à tous, merci chers auditeurs de suivre les aventures de la vie associative, deuxième émission de cette nouvelle saison. Tout ça pour vous dire que vous retrouvez l'émission de la semaine dernière déjà en podcast ou en vidéo. Émission qu'on avait fait, une émission un petit peu mixte comme ça avec David, puisqu'on avait fait une demi-heure réussite éducative et une demi-heure vie associative pour lancer la nouvelle saison des deux thématiques. Vous retrouvez bien sûr cette année en alternance vie associative, réussite éducative, toujours avec votre serviteur bien sûr, et réussite éducative, c'est dur à dire, co-animé avec le DRE de Maxéville, David Richard. Et c'est pour ça que, avant de faire mon tour de table, avant de vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, même si je l'ai annoncé la semaine dernière, bien sûr, on va juste faire un petit clin d'œil à la réussite éducative, parce que vous vous souvenez sûrement, chers auditeurs, vous suivez toutes nos aventures, David attendait désespérément son invité la semaine dernière, notre fameuse chroniqueuse principale. On lui a rendu hommage maintes et maintes fois en parlant de son éclectisme artistique, de son goût de toute forme d'art comme le théâtre, comme je ne sais même plus, tellement il y en a. Et elle a aussi développé pour cette nouvelle année une nouvelle forme d'art qui est l'invisibilité, qui est le retard, l'absence de ponctualité, bien sûr. Et on va rendre un petit hommage à Tess Black, qui était là comme une âme en peine, puisqu'elle s'est trompée carrément d'heure. D'ailleurs, on peut même dire aux auditeurs que tu t'es trompée de semaine, même, parce que je te rappelle que là, nous sommes la semaine d'après.
Chut, faut rien dire
parce
dans
que les
la
auditeurs
vie.
Ne savent pas qu'on enregistre l'émission des fois à l'avance, donc on est carrément une semaine après. Ça va, Tess Black?
Ouais, ça va, tranquille. Juste, je me suis déplacée comme une débile pour rien, mais tout va bien sinon.
C'est pas grave, ça nous fait une petite ouverture comme ça sur la réussite éducative.
Ouais, maintenant je me retrouve solo avec toi là.
Alors, oui, mais juste 60 secondes parce que malheureusement je vais être obligé de t'abandonner.
Oui, mais c'est 60 secondes de trop là en fait, c'est ça que tu comprends pas.
Mais tu me connais, hein, je pense la même chose de toi.
Ah bah c'est parfait.
Mais blague à part, c'est vrai qu'on t'a rendu pas mal hommage parce qu'on disait avec David que tu étais très représentative de, voilà, de la jeunesse à laquelle il fait par rapport à ses actions d'ouverture culturelle, artistique. On t'a rendu hommage parce qu'effectivement, depuis ça fait au moins 4 ou 5 ans que tu viens régulièrement dans l'émission Réussite éducative.
Malheureusement.
Moi aussi. Et ben, n'empêche qu'à chaque fois, c'est avec une nouvelle forme d'art que tu présentes, une nouvelle découverte, théâtre, lecture, beaucoup de littérature. Hein. Tu nous as présenté des super livres en fin de saison dernière. Et cette année, tu seras toujours de la partie?
Ça va dépendre de mon emploi du temps.
Ça, je prends ça pour un oui. Et toujours aux côtés de David, bien sûr, dans à la fois la radio, mais aussi tu nous présenteras toutes tes... Parce que je pense que tu continues, tout ce qui est lecture, théâtre un peu.
Non, ça fait longtemps que j'ai arrêté le théâtre.
Hein. Oui, mais il y a eu l'époque théâtre.
Oui, mais ça fait très longtemps.
Et Marvel?
Ah bah ça s'arrêtera jamais. Hein.
J'adore quand des jeunes nous disent ça fait très longtemps, des jeunes que je connais depuis 4 ou 5 ans. Qu'est-ce qu'on doit dire nous quand on évoque certaines étapes de nos vies, quoi? C'était il y a très longtemps, 4 ou 5 ans. Ok. D'accord, merci. Tu nous renvoies dans nos
je
cordes.
Je me sens vieille, moi, en fait, déjà.
Ouais, bah, certains côtés, oui, tu l'es, mais...
Bah, en fait, et après, toi, c'est... Ouais.
C'est quoi?
Non, rien.
Merci. Donc, réussite éducative, on te remercie, on te salue, hein, on te laisse rentrer repartir chez toi, que t'arrives pas trop tard.
Ouais, parce que là, c'est bon,
retard.
ça fait
une semaine que tes parents t'attendent.
Oui, mais ça fait déjà trop longtemps que je vois ta tête, t'inquiète pas, j'ai prévu de partir.
Hein. Voilà, bah, à bientôt, Tess Black.
Oui, à bientôt.
Et merci. Et donc, je te rappelle, je te le dis là, en direct, ok? Les prochaines réussites éducatives, c'est la semaine prochaine.
Oui.
En gros, puisqu'on enregistre à l'avance, c'est dans 15 jours, ok? Le 17 septembre, tu viens ici, avec David, ok?
Je viendrai le 18.
Ok. Bon, à bientôt, Tess Black.
À bientôt.
Merci d'être venu. Donc, vie associative, tu vois, j'arrive à me faire tromper. Vie associative, merci Jean-Luc à la technique. Aujourd'hui, comme promis, on va revenir un petit peu sur le Ventoux. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Pourquoi le Ventoux? C'est pas tant l'idée de parler du Ventoux, mais c'est surtout que ça permet de porter un éclairage. Enfin, je sais que vous aussi, et certains sur Facebook, m'ont demandé un petit peu de revenir sur comment ça s'est passé. Donc, en fin d'émission, on aura sûrement Julien qui quitte une réunion d'RCN pour venir dans les studios, pour rencontrer l'invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Puis aussi pour dire un petit peu son ressenti du défi qu'on a mené ensemble, dans lequel je l'ai un petit peu embringué, qu'il a suivi avec une grande générosité. Voilà, donc on en parlera un petit peu. Mais l'idée de parler du Ventoux, c'est surtout pour parler, comme la semaine dernière on avait parlé du Téléthon, on avait reçu Michel Adam, le coordinateur, vous retrouvez tout ça en podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur pour la deuxième émission de la saison, je suis tout intimidé, hein, c'est pour ça que je vais sûrement bafouiller pendant toute l'heure, de recevoir France Victime 54 en la personne de la présidente Anne-Sophie Gabrieloff. Je l'ai bien dit?
Parfait. Bonsoir, okay. Chamallow.
Ça va? je suis intimidé là.
Ah, faut voilà, pas.
J'ai l'impression de démarrer la radio. Mais je suis content, tu vois, enfin, vous voyez, je l'ai bien dit. Je me souviens d'une époque à l'autre canal où des fois je me trompais un peu. Alors voilà, là j'ai bien répété et tout.
C'est un sportif.
Mais merci d'être venu.
Ben merci pour votre exploit.
Je montre la banderole, chers auditeurs, parce que cette émission est filmée. Voilà, donc j'ai l'air totalement ridicule. Et je le dis, c'était une immense fierté au panneau 1912 mètres, au sommet du Ventoux, de porter cette banderole. Je remercie tous ceux, d'ailleurs, qui des fois nous ont aidés à porter les banderoles respectives. Parce que pour ceux qui vous voient sur la vidéo, c'est pas toujours facile de... Et surtout, après la montée du Ventoux, des fois, j'ai un peu de mal à faire ce geste-là. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Je sais pas si c'est très lisible, mais de toute façon, vous allez nous en dire plus sur France Victime, les numéros de téléphone, les trucs, etc., etc.
Tout à fait.
Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là dans notre petite et modeste radio RCN. Ça fait plaisir. Question. J'ai beaucoup parlé de France Victime là-bas, au sommet, sur Facebook, à la radio, puisque grâce à d'ailleurs au technicien Jean-Luc, il y a eu régulièrement depuis plus d'un mois un petit spot, comme on appelle, une petite chose qui passait de quelques secondes, qui parlait aussi de France Victime pour annoncer le Ventoux. Et du coup, j'en ai beaucoup parlé, mais je ne l'ai pas trop évoqué, les objectifs, la philosophie, etc. Donc je pense que c'est bien du coup que les auditeurs qui m'ont entendu juste dire France Victime 54 le connaissent un petit peu, cette association la connaissent. Du coup, qu'est-ce donc France Victime 54?
Alors France Victime, c'est une association d'aide aux victimes. On accompagne toutes les victimes de tout type d'infractions, donc aussi bien les atteintes aux personnes que les atteintes aux biens, les accidents de la circulation. On a aussi une compétence sur les accidents collectifs, le terrorisme. Et donc il y a une association ou plusieurs par département. Et France Victime 54 intervient sur le ressort du tribunal judiciaire de Nancy, c'est-à-dire quasiment tout le département, sauf la partie haute Briey, puisque Briey a son tribunal.
D'accord. Donc, et puis c'est une association nationale, hein, c'est ça?
On fait partie d'une fédération. Ouais, fédération. Il y a 130 associations en métropole et territoire ultramarin. Et en tout, c'est 1700 professionnels et 1500 lieux d'accueil.
D'accord. Et donc en lien direct, parce que j'étais venu à l'Assemblée Générale, il n'y a pas sinon, enfin quoi que les mois passent, Tess Black me dirait que je vieillis, mais j'étais venu à l'Assemblée Générale au tribunal.
Oui, au mois d'avril.
Au mois d'avril. Donc c'est en lien direct hein, avec le tribunal, avec...
Oui, alors on est une association agréée par le ministère de la Justice, et donc on propose un accompagnement gratuit, global, pluridisciplinaire, et puis personnalisé pour chaque victime que nous rencontrons. Donc aussi bien des majeurs que des mineurs.
D'accord. Ouais. Et donc, les auditeurs qui nous écoutent, là, peuvent aller à la rencontre de France Victime 54. Comment et dans quel cas?
Alors, souvent, ça arrive après un dépôt de plainte. Mmh. Lorsque vous déposez plainte, vous avez un petit encart en vous disant, voilà, vous pouvez être accompagné par une association d'aide aux victimes et vous pouvez la contacter à tel numéro. Il y a également une plateforme nationale, le 116 006, qui fonctionne de 9h à 20h tous les jours.
Ah, tous les jours?
Tous les jours.
D'accord. Et donc là, on peut vous contacter. Voilà, on a une difficulté, une souffrance particulière. Voilà. Et après, vous pouvez aiguiller.
Alors,
suivant.
Voilà. Souvent, nous on intervient quand on arrive à une phase judiciaire, un dépôt de plainte, ou alors il y a une garde à vue d'un auteur. Et là, la victime va venir nous voir et on lui apporte des conseils. Et ensuite, on l'oriente, si besoin, vers des professionnels, des avocats ou des médecins, en fonction des situations.
D'accord. Mais il y a déjà cet aspect judiciaire qui est...
L'aspect judiciaire est très important de notre activité. Sur les 15 salariés que nous avons, il y a 10 juristes, 2 psychologues et 2 assistantes sociales. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on est victime, lorsqu'on est sur une atteinte aux personnes, voilà, il y a un accompagnement global. Il y a le volet judiciaire, mais il y a aussi souvent un aspect social. Lorsque, par exemple, une femme victime de violence doit quitter son domicile, faut être en capacité de la reloger, parfois de lui fournir de quoi vivre ou de quoi s'habiller. Voilà.
D'accord. J'ai une petite question, mais je pense qu'après vous allez développer sûrement, parce que vous êtes, je pense, par rapport à cette association-là, une sorte de baromètre, ou je pense que votre vision va nous permettre de voir un petit peu l'état de la société, mais nous on ne perçoit peut-être pas. Mais est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse, c'est une immense parenthèse, mais sur les violences faites aux femmes, parce qu'on s'était connus par rapport à cette thématique-là, pour des raisons personnelles, ça me touche énormément. Du coup, voilà, il y avait eu une action il y a 2 ans, c'est comme ça qu'on s'est connus.
Oui,
est-ce que, du coup là c'est une question qui moi m'intéresse beaucoup, mais est-ce que justement les violences faites aux femmes, comme on dit là, ça diminue, c'est toujours pareil, quelle est parce que vous, du coup, votre perception, elle est très juste, du coup,
ouais.
Où est-ce qu'on en est dans cette horreur-là ?
Alors, c'est assez difficile à analyser. D'une manière générale, la société est de plus en plus violente, puisqu'aujourd'hui, si on reprend les 3 types de dossiers qu'on instruit, donc les atteintes aux personnes, elles sont en explosion. On est à 62% de nos dossiers qui sont des atteintes aux personnes. Avant, on avait plus d'égalité entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens. Ça, c'est à peu près équilibré. On voit effectivement que depuis le Grenelle des violences conjugales, c'était 2019, les femmes prennent davantage la parole. Donc, on a peut-être aussi plus de dépôts de plaintes, ce qui fait que ce chiffre-là est en augmentation. Mais on voit bien aussi que sur les 5200 victimes qu'on reçoit chaque année, le pourcentage de femmes, il est de plus en plus important. On est à 60% de femmes, alors que aussi il y a quelques années, on était plutôt à parité.
Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Okay. La notion, le fait que l'humanité soit perfectible, ça a relativisé, quoi. Pour l'instant, c'est encore pas...
Mais après, il faut aussi voir les points positifs. Je veux dire, il y a eu de plus en plus de dispositifs de protection pour accompagner les femmes victimes de violences. Il y a aussi des progrès importants qui sont faits sur l'accompagnement pour l'hébergement, l'aide d'urgence. Voilà, ça, c'est des points positifs. Et puis aussi des personnels et de santé et des forces de l'ordre qui sont mieux formés pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Et ça, c'est particulièrement important.
D'accord. Oui, ça, c'est vrai que j'avais pu, comme ça, quelques petites informations, puis on en avait parlé quand on s'est rencontrés la première fois. Et il est clair que, par rapport à ce que j'avais connu, il y a quand même des améliorations, parce que moi, je suis quand même d'une époque où, voilà, il fallait des fois, avec la maman, aller dans des foyers, certains que je connais bien encore aujourd'hui, puisque des fois, je vais faire le clown, mais que je n'aimerai pas. Hein, mais c'était... vraiment compliqué, c'était moins pris en compte, du coup voilà, je crois qu'aujourd'hui il y a quand même des améliorations, mais mine de rien, il y a un débat qu'on entend souvent dans les médias, voilà, quand on n'y connaît rien, des kidam comme moi là, on entend dans les médias, c'est ce débat qui revient sans cesse, quasi philosophique, du sentiment d'insécurité ou d'une vraie insécurité, et les politiques se disputent là-dessus, alors paraît-il que des médias vont tourner en boucle des faits divers pour amplifier, et du coup on ne sait jamais trop. Et en vous entendant, je me rends compte que finalement, l'insécurité augmente en vérité. C'est ça la vérité.
Il y a un peu des deux. On voit bien aussi que les faits d'insécurité qui sont rapportés par les médias génèrent forcément un sentiment d'insécurité qui est encore plus important. Ça, c'est une évidence. Hein.
Oui.
Mais par exemple, sur l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales, la prise en charge des femmes a bien évolué positivement. Et aujourd'hui, on voit bien que le ministère de la Justice s'empare du sujet de l'accompagnement des enfants victimes et témoins de ces violences conjugales. Et c'est pour ça que la fédération, dont je suis porte-parole, demande aujourd'hui un Grenelle national de l'enfance pour mieux protéger les enfants de ces violences.
Ah oui, ouais. Oui, parce que c'est vrai que vous m'avez déjà parlé de cette thématique. Il ne me semblait pas qu'à mon époque, ça fait bizarre, j'ai l'impression d'entendre tes blagues qui rigoleraient à mon histoire de à mon époque, mais il y a quelques années, c'est vrai que finalement, je n'ai pas souvenir qu'on soit beaucoup allé vers les enfants, mes frères et sœurs, moi, etc. Qu'il y ait beaucoup. Bon, en même temps, j'étais petit, hein, mais que ce soit vraiment une problématique qui était vraiment sur laquelle on focalisait à l'époque. Donc
Oui, alors qu'aujourd'hui, l'enfant victime a un véritable statut. Et c'est important, puisque quand il assiste à des violences, même sans être victime directe lui-même, on sait qu'il y a un traumatisme très important.
Oui, oui.
Voilà. Et après, l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir mieux protéger l'enfant sur le plan psychologique et aussi sur le plan physique, mais aussi de permettre un accompagnement dans de bonnes conditions, d'éviter qu'il soit en contact avec le parent violent, par exemple, et puis d'avoir un parcours mineur-victime pour être aussi en capacité de lui expliquer comment ça se passe. Parce que la justice, c'est déjà très compliqué à comprendre quand on est grand. Alors, quand on est tout petit, qu'on voit des messieurs ou des dames dans des grandes robes noires, voilà, c'est important d'expliquer le rôle de chacun, du juge, de l'avocat, la salle du tribunal et comment ça va se passer et que la justice peut avoir un temps long. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne croit pas l'enfant, mais que la prise en compte de sa parole peut mettre du temps pour avoir des conséquences pour le protéger.
Oui, c'est vrai. En vous écoutant, ça m'ouvre tellement de choses. Bah pour vous dire un petit peu ma réflexion, c'est en sachant que j'allais vous recevoir aujourd'hui et tout ça, puis j'avais appelé ma maman que vous avez rencontrée à l'autre canal, je
oui,
crois. Hein.
Tout à fait.
Je ne sais pas si vous aviez trop eu le temps, parce que c'est vrai que vous étiez accaparé, vous avez beaucoup de choses à dire, mais je crois que vous étiez croisé.
On avait bien échangé.
Ouais. Ah, c'est vrai ?
Elle était bien émue, donc
ouais.
Voilà. Ah, ouais, c'était aussi chouette. Un moment pour vous deux, je crois.
Oui, c'est vrai. Mais du coup, je l'ai appelé hier, parce que j'essaie toujours de finir ce livre où je raconte son histoire. Donc je l'ai appelé, puis hier, je lui ai posé une question qui me turlupinait. C'est parce que nous, on était arrivés à Nancy, je ne sais pas comment on dit, mais emmenés de Colmar hein, en une nuit, justement, pour s'extraire de violences familiales. Il fallait absolument aller loin dans une autre région, etc., etc. Et on est arrivé dans un gîte familial, on est resté 6 mois le temps qu'elle trouve du travail. Et hier, pour écrire cette période-là, on était 4 enfants. Hein, et je lui ai demandé quel âge elle avait, quelle était vraiment l'année, pour ne pas me tromper dans mon écrit. Et quand elle m'a dit, elle avait 27 ans quand on est arrivé. Et c'est vrai que quand on est enfant, nos parents, c'est des grands, c'est des adultes. Mais hier, j'ai pris conscience, ça m'a arrêté 30 secondes, parce qu'aujourd'hui, j'ai une fille qui a l'âge là, une grande, et c'est pas ma princesse Adèle hein, qui m'a soutenu dans le ventoux en me faisant un petit talisman là, mais j'ai une grande qui a l'âge là. Et du coup, hier, ça m'a fait méditer, je me dis quand même, 27 ans, et toutes les violences que j'ai vues, terribles, parce qu'à l'époque, c'était vraiment terrible, je pourrais pas dire ça à l'antenne, mais et arrivé dans un gîte familial avec 4 enfants, et quand j'y repense aujourd'hui, avec le recul, les années ont passé, et j'ai 27 ans. Et là, j'ai pris conscience que l'horreur, c'est encore plus grand, quoi, parce que 27 ans, c'est rien, c'est des bébés, quoi. C'est,
ouais. Pas, c'est des jeunes. Il n'y a pas d'âge, en fait, sur les violences conjugales. Aujourd'hui, un des phénomènes qu'on constate, c'est aussi beaucoup de violences sur des très jeunes femmes. Voilà, les premières constitutions d'un couple, 18-20 ans, on idéalise la relation et il se passe des violences. Mmh. Et puis aussi, peut-être plus là lié au phénomène de la libération de la parole sur des seniors. Mmh. Sur des seniors qui partent après 70 ans. Et en fait, là, c'est aussi compliqué. Chaque âge a ses difficultés, mais bon, il n'y a pas d'âge pour subir des violences.
Oui, ouais, c'est triste, mais oui. Ouais, c'est vrai. Dès qu'il y a peut-être une... Ouais, il y a des gens qui peut-être profitent d'une... Est-ce que je pense à ça, à ce qu'elle a subi il y a 2-3 ans aussi, qui l'a amené là, Dieu merci, bah, je crois que d'ailleurs par le biais de votre association, à être là maintenant totalement dans un endroit serein, etc. Voilà, et ça c'est bien depuis 2 ans, c'est super, et je vous en remercie. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'à l'époque, elle était fragile, et par l'âge, et puis voilà, il y avait un problème de santé et tout. Et je me dis, ouais, il y a peut-être des gens qui profitent de la moindre faiblesse. Mais je mets des guillemets à faiblesse, parce que est-ce que c'est une faiblesse que d'avoir un certain âge ou d'être jeune ou d'être... Je ne sais pas, mais des gens qui peut-être sentent une fragilité dans laquelle ils peuvent s'engouffrer, je ne sais pas.
Ouais. Oui, mais on voit bien que les femmes victimes de violences, elles ont parfois un certain profil où plutôt les auteurs savent détecter les failles et vont plutôt s'attaquer à des femmes qui ont une petite fragilité, soit dans leur histoire familiale, soit dans leur vie personnelle, soit des problèmes de santé. Et ils rentrent dans des brèches et ensuite, il y a un phénomène d'emprise qui peut se déclencher.
Ouais. Le monde est parfois tordu quand même.
Mais... c'est parfois difficile.
Oui, mais c'est vrai que ce que vous faites, oui, vous allez quand même à la rencontre directe de la vérité. Et ça ne doit pas être facile, non, dans votre association. Je pense que voilà, ça ne doit pas être simple. J'en parlais aussi des fois avec les Blues Roses par rapport à un autre aspect de ce qu'ils rencontrent. Mais il doit y avoir cette difficulté-là, non ? Parce que ça ne doit pas être facile d'être à la rencontre quasi quotidiennement de la vérité du monde, quoi, dans ce cas-là de plus laide.
Oui, nos professionnels sont effectivement confrontés à des difficultés et aux horreurs, entre guillemets, de notre société. Et donc, ils sont accompagnés, ils ont une supervision. Lorsqu'ils en expriment le besoin, ils voient un psychologue pour pouvoir évacuer toutes ces horreurs.
Oui. Voilà. Parce que ça ne va pas être facile de, ne pas, enfin, de laisser cette fameuse barrière dont on nous parle parfois pour se protéger soi-même. Ça ne va pas être toujours facile à gérer, non ?
C'est pour ça qu'on travaille qu'avec des professionnels. On n'a que notre conseil d'administration qui est bénévole. Tout le reste sont des gens formés justement par la Fédération France Victimes. Et donc, on a aussi, je vous en ai parlé la dernière fois, on a un chien d'assistance judiciaire.
Oui, j'allais vous en parler.
Voilà, donc lui aussi, il a été formé. Alors, notre Saxo a été réformé pour raison de santé. Ah. Mais on a récupéré Hubble, qui lui succède, qui lui est un Golden Retriever et qui accomplit sa mission là aussi, alors auprès des plus fragiles, donc principalement les enfants, mais aussi lors des procès d'assises, donc des procès qui sont souvent particulièrement difficiles à gérer pour les victimes.
Donc ça, c'est un vrai apport, quoi, c'est ça ?
C'est un peu un doudou pour les personnes qui sont en situation de stress, notamment les enfants, quand ils vont aux examens médicaux ou quand ils ont des auditions avec, avec un magistrat. Voilà, ou en procès d'assises, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de stress de se retrouver face à l'auteur dans un cadre qui est quand même très formel. Et la présidente de la cour d'assises me disait, mais même quand il y a le chien d'assistance, on sent que ça apaise les jurés.
Ah oui. C'est positif.
C'est très positif. Voilà. Il est intervenu 118 fois l'année dernière.
Oui, parce que je crois que le premier, c'était juste après notre rencontre à l'autre canal, non ?
Oui, eu fin 2023, je crois.
Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est important. Mais en vous écoutant, je me rends compte que quand on est à l'écoute des médias, qu'on entend toutes les horreurs-là, parce que tu sais que je crois qu'il n'y a pas un jour où les médias ne sont pas à l'écho d'une catastrophe. En fait, c'est dans l'ordre, souvent, alors ça peut être aussi un mode de, je pense, de protection qu'on a tous aussi, mais c'est dans l'ordre du narratif. Alors, puis parfois nos vies font qu'on entend l'information, etc. Mais en vous écoutant, voilà, c'est presque la réalité. Vous donnez corps à ce qu'on entend habituellement. Voilà, finalement.
Oui, puis je pense que nous avons tous dans notre entourage des gens qui ont été victimes d'un vol. Avec effraction chez eux et pour lequel ça a été douloureux, ou un accident de la circulation grave, voilà, et les violences intrafamiliales, on en parle peut-être moins, mais dans chaque famille, il y a quand même souvent des histoires.
Hein. Oui. Quand on creuse un peu, alors que la famille, je pense aux enfants, moi je suis toujours fixé sur les enfants, mais ça devrait être un havre de paix, un lieu de certitude, de confiance, de certitude, je sais pas, de solidité. Et c'est terrible pour les enfants quand c'est à la maison que ça devient un lieu d'incertitude, de peur quotidienne.
Oui, ouais. À la maison ou des proches. Aussi, souvent, c'est des proches. On voit bien la CIVISE, c'était la commission qui avait été pilotée par le juge Durand. Hein. On considère que sur une classe de 30 enfants, il y a 3 enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles.
Ouais. Voilà. Ouais, quelle horreur, ça n'arrive même pas. C'est tout ça que je vous admire, parce que pour aider à améliorer le monde comme ça, vous allez vous confronter à des choses qu'on a même du mal à croire que ça existe, à conceptualiser. C'est terrible. Hein,
ouais. Ouais. Et là, sur ce type de violence, il y a un travail de repérage qui est particulièrement important à faire. Alors, par les professionnels de santé, parce que souvent, le médecin traitant, c'est quand même le premier qui se rend compte de ce qui peut se passer dans une famille. Mmh. Ou aussi, pour les enfants, le personnel de l'éducation nationale.
Ah oui, ouais.
Donc, c'est bien les former pour leur permettre de repérer. Parce qu'un enfant qui est victime de violence chez lui a quand même un comportement très spécifique. Et il y a des choses qui peuvent alerter et justement conduire à la protection de cet enfant.
D'accord. Donc la formation. Alors, la formation des... Ouais, des adultes qui...
Des adultes ouais. référents.
Ouais. Ah ouais, bah, c'est terrible. On va faire une petite pause musicale non, sur ces choses, hein, ces thématiques un peu pesantes, mais qui sont votre, finalement le quotidien de France Victime 54. Hein. Vous parliez des, justement, hors antenne, d'un accident de... automobile.
Oui.
avec un ami, là. Donc, ça aussi, c'est fréquent qu'ils viennent frapper à la porte de...
Alors, le droit des victimes en matière d'accident de la circulation est quand même plutôt bien fait. Donc on a assez peu de dossiers. On doit avoir une centaine ou 150 dossiers sur cette thématique-là. Après, on voit toujours que c'est difficile. Hein. Il y a eu le grand débat suite à l'accident Palmade, où on a transformé la loi pour créer l'homicide routier. Mais en fait, là, on a surtout changé les termes pour que ça soit plus acceptable par la société parce que les peines restent les mêmes sur ce sujet.
Ah d'accord, ça n'a pas amplifié les peines
non, c'est... Assez peu. Il y a quelques circonstances aggravantes qui ont été ajoutées, mais la peine reste identique.
D'accord. Eh bien, il y a encore beaucoup à dire. Eh bien, on se retrouve tout de suite avec France Victime 54. Tout à l'heure, on aura bien sûr Raphaël Lorraine au téléphone. Et on va lancer une petite pause musicale. Alors, depuis la semaine dernière, je passe la plupart des chansons que j'écoutais pour réussir à monter le Ventoux. Et le fait est que dans le MP3, j'avais 50% Alain Souchon, que je crois que vous aimez bien.
J'adore.
Et voilà, donc je te dirai, Jean-Luc, on en passera une tout à l'heure. Et 50% Elvis Presley. Plus, quand j'avais un peu moins mal, c'était Alain Souchon, la mélancolie que j'adore, la poésie. Et à la fin, quand j'avais très mal, c'était le King. Donc, Jean-Luc, si t'es au point, on sort pas sur une petite de King. Merci.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto.
In the ghetto.
Now people, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. And then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries as a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto.
In the ghetto.
And as her young man dies
in the ghetto.
On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born. And his mama cries.
Associatif sur RCN.
J'avais oublié que les roses sont roses.
Avec le clown Chamallow.
J'avais oublié que les bleus sont bleus.
Le clown Chamallow. Ah, oh, merci. Ah oui, non, vas-y. Si c'est pour Adamo, tu peux me couper la parole. Parce qu'en plus, je suis sûr que... Anne-Sophie, je peux dire Anne-Sophie à l'antenne comme ça?
Oui.
Ouais, merci. Je suis timide hein, quand je ne suis pas maquillé en clown, mais je suis sûr qu'Anne-Sophie vient à RCN juste pour entendre Adamo.
C'est ça.
C'est ça. Avouez que ça vous a manqué.
Non, c'est pour féliciter Chamallow.
Oh, bah non, mais c'est pas pour ça que je vous ai invité. Non, mais c'était bien, c'est gentil parce que c'était pour donner corps. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont demandé, m'ont dit, ben voilà, vous allez souffrir pour trois associations. Puis j'avais tout. Voilà, j'ai résumé un peu parce que, voilà, on s'était déjà rencontrés. Mais c'est vrai que, voilà, je voulais un petit peu donner corps au défi et à l'évocation de l'association. Merci Jean-Luc, hein, c'est beau ça. Voilà. Ouais, le monde, ça devrait être ça, juste. Je pense qu'on peut pas être violent quand on écoute Adamo quand même. Bon, je suis sûr que j'ai des invités qui diraient c'est mon directeur d'antenne dirait peut-être que c'est ça qui le rendrait violent, mais c'est pour me taquiner. Donc revenons vers France Victime 54. Je crois, bon je triche un peu parce qu'on se l'est dit juste avant la prise d'antenne, mais que vous vouliez revenir peut-être sur les partenariats. Mais c'est important, on se l'est dit juste avant la prise d'antenne, mais quand même c'est important les partenariats pour voir voilà, ce que vous coalisez comme, voilà, comme acteur. Pour justement aller à l'aide des victimes.
Oui. Oui, parce que la prise en charge d'une victime, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est global, c'est pluridisciplinaire. Hein. Donc bien évidemment, on travaille beaucoup avec le parquet et monsieur le procureur, principalement. Mmh. On travaille également beaucoup avec les forces de l'ordre, hein, que ce soit police nationale ou gendarmerie. Et puis, on a développé depuis quelques années un partenariat très fort avec le CHRU de Nancy. Puisqu'on fait des permanences à l'unité médico-judiciaire et on a un travail aussi très important en direction des mineurs à la salle Mélanie. Donc c'est des salles qui sont équipées spécifiquement pour prendre les dépositions des enfants mineurs. Et depuis peu, mais vous en avez peut-être parlé sur votre antenne, a été mise en place sur Nancy la Maison de la Résilience qui est portée par le docteur Ingray et qui travaille sur la prise en charge des victimes, notamment de violences sexuelles. Donc là aussi, on fait des permanences de juristes parce qu'au-delà de la prise en charge du trauma et des violences physiques subies par les victimes, il est important de pouvoir leur expliquer le volet judiciaire, comment ça va se passer. Et puis, toujours avec le CHRU, et la ministre Berger est venue il n'y a pas très longtemps, on a signé un nouveau protocole sur le dépôt de plainte à l'hôpital pour permettre aux victimes de pouvoir déposer plainte à l'hôpital. Parce qu'en fait, quand elles arrivent et qu'elles sont prises en charge par le personnel soignant, c'est aussi un temps de, alors je le mets entre guillemets, hein, mais de repos, où elles ne vont pas être sous la pression des auteurs. On va pouvoir leur expliquer les choses. Et parfois, elles vont décider à ce moment-là de déposer plainte. Il arrive aussi souvent qu'elles le font, elles ont besoin d'un temps de réflexion après le traumatisme qu'elles ont vécu et qu'elles ne reviennent que 2 ou 3 mois après en disant « Ben là, voilà, je vous ai vu à ce moment-là quand j'étais à l'hôpital, vous m'avez expliqué comment ça pouvait se passer, là je suis prête à aller déposer plainte. » Et à ce moment-là, on accompagne la victime pour déposer plainte.
D'accord.
Et donc, ce partenariat, voilà, c'est la clé de la réussite aussi. C'est le fait que les partenaires arrivent à coordonner les actions pour accompagner au mieux la victime dans son parcours judiciaire.
Oui, mais c'est bien parce que moi, ça me rappelle plein de choses, donc c'est pour ça. Mais de rendre peut-être un peu moins anxiogène, c'est ce parcours judiciaire qu'il est intrinsèquement quand même et qui doit pas faciliter l'acceptation de démarches, non, de démarches, bah, de dépôt de plainte, etc. Parce que moi j'avoue que il m'est souvent arrivé enfant de dire mais pourquoi on fait pas ça et de pas trop comprendre le monde qui m'entourait parce que quand on est enfant on a une vision, des fois on a l'impression que c'est simple, on se dit ben mais pourquoi on part pas par exemple, moi toute mon enfance on disait, j'ai dit ces phrases là est-ce qu'on part, etc. Et on comprend pas toujours que les adultes pour eux c'est plus complexe qu'on ne croit et des fois on s'interroge et finalement de rendre moins anxiogène et d'expliquer que c'est possible de porter plainte, que c'est possible d'enclencher quelque chose, qu'il y aura une protection qui sera mise, etc., etc. Ben ça peut, je pense, faciliter les démarches. Là où moi j'ai connu plutôt une époque où voilà, on n'osait pas, on vivait les choses, peut-être parce que si les personnes ne savaient pas ce qui pouvait être mis en place, pas comment s'en sortir, est-ce que ça serait pas pire après, Parce qu'il y a aussi des fois des représailles, des choses comme ça. Quand on en... Je pense que quand on enclenche la machine judiciaire, je pense qu'il doit y avoir des femmes, parce que c'est ce que je connais un peu le mieux, mais qui doivent avoir peur après de, d'ouvrir une sorte de boîte de Pandore, peur de représailles ou des choses comme ça, non? Du coup.
Alors, c'est vrai que le dépôt de plainte, c'est le début d'un long parcours.
Oui.
Alors, c'est vrai que les dispositifs de protection qui sont mis en place en matière de violence conjugale, donc le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement, ça permet quand même de protéger davantage la victime. De même que les ordonnances de protection qui peuvent être mises en place. Après, on voit bien aussi toute la difficulté, parce qu'il y a le dépôt de plainte, il y a ensuite le « je vais partir », je veux partir, mais c'est parfois comment je vais financer mon départ, où est-ce que je vais aller habiter, comment on va gérer les enfants, comment on va gérer la famille. C'est aussi faire exploser beaucoup de choses. Et parfois, la victime, elle se dit, allez, c'est peut-être un mauvais épisode, ça va peut-être passer. Et en fait, c'est leur dire, voilà, nous, on est là. Les différentes options, c'est ça. Les aides que vous pouvez avoir sont celles-ci. Mais maintenant, c'est vous qui avez la décision. Il est important de ne pas se mettre à la place de la victime. C'est elle qui doit décider. Et ça ne peut fonctionner que comme ça.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je pense que ça peut aider à la prise de décision, hein. Effectivement, de lui montrer que le parcours judiciaire... Mais bon, il reste ce qu'il est. Je pense qu'il reste anxiogène. Et effectivement, c'est un long processus, non?
C'est un processus qui est long, c'est un processus qui est contradictoire. Et voilà, c'est vrai que le temps de la justice n'est pas celui forcément de la victime. Voilà. Et qu'il est parfois, notamment... Quand il y a des enfants, c'est difficile de mettre en place des vraies protections parce que y a la prise de contact avec entre le père, enfin l'auteur le plus souvent, et les enfants, et forcément ça nécessite souvent de se rencontrer et ça peut générer des difficultés ou recréer des difficultés.
Oui. Ouais, puis après y a aussi la difficulté pour partir, le fameux partir financière, parce qu'on vous parlait d'emprise tout à l'heure, l'emprise elle est parfois, j'en sais rien, moi je dis ça, mais c'est vous rectifiez si j'ai des bêtises. Hein. Ma perception, elle est quand même datée, mais l'emprise peut être aussi financière, dans le sens de comment partir, comment on va s'en sortir, etc. Comme je disais tout à l'heure, nous, on avait commencé par 6 mois dans un gîte familial. Pourquoi aussi long? Parce que on n'avait pas le droit d'en partir tant qu'il n'y avait pas un travail et une sécurité financière pour les enfants, quoi. Et c'est sûr que ça doit aussi pas faciliter le fait de pouvoir s'extraire d'une cellule familiale violente. S'il y a la difficulté à affronter l'aspect financier, je pense que ça ne doit pas aider. Donc je pense que l'emprise doit jouer aussi là-dessus. Certains doivent jouer aussi sur ça.
Oui, mais après, c'est vrai que quand on pense aux violences physiques, mais il y a aussi toutes les violences psychologiques, les violences économiques. Quand vous n'avez pas de moyens pour partir, c'est compliqué. Ou quand vous n'avez plus vos papiers pour partir, c'est aussi compliqué. Et c'est pour ça que la Fédération France Victimes a développé un outil qui s'appelle Mémo de vie. Et donc sur Mémo de vie, vous avez un coffre-fort sur lequel vous pouvez mettre vos documents en sécurité, vos papiers, tous vos contrats de mariage ou autres. Et puis, vous avez aussi un journal de bord où vous pouvez noter toutes les violences que vous subissez jour par jour. Et comme ça, quand vous êtes prêt à déposer plainte, vous avez des éléments. Vous avez déjà un fond. Hein, je mets aussi entre guillemets un fond de dossier qui vous permet d'avoir des traces qui vont pouvoir caractériser les violences.
Ouais, donc c'est bien, ça c'est bien.
Voilà, c'est Mémo de vie.
Mémo de vie. On apprend plein de trucs sur scène-là, merci.
C'est normal.
Alors l'émission, on va... Parce que c'est des thèmes un peu comme ça, pesants, difficiles. Ça va?
Ouais.
C'est bien passé la réunion?
Ouais, super.
Super. Ah, le micro est allumé. Génial.
Qui est là?
Ouais, justement, je fais une sorte de petit effet mystère. On va alléger un petit peu ces thématiques-là, parce qu'on reçoit un petit rigolo, là. Alors, je dis aux auditeurs, on a Julien, mais j'avais annoncé tout à l'heure, hein, donc les auditeurs ne sont pas surpris. Pourquoi je voulais que tu passes quelques minutes là? On fera une grande émission, un coup, tu auras vraiment une heure, et on s'amusera à faire une émission très humoristique, où on racontera notre défi du début à la fin, du premier train du premier départ à 5h55 du matin, dans le noir, jusqu'à l'arrivée. On fera toute une heure, je pense, parce que j'ai plein de questions à te poser, puis on s'en posera mutuellement et on racontera tout ça. Mais je voulais que tu viennes déjà, parce que tu as aussi souffert sur les pentes pour emmener la banderole de France Victime 54 là-haut, donc ça m'intéressait que vous, de vous présenter mutuellement l'un à l'autre. Mais aussi, je le dis aux auditeurs, mine de rien, on se taquine, la dernière fois à la radio aussi, j'ai taquiné sur nos vitesses respectives de montée, de descente, tout ça. Mais il y a un truc qu'il faut dire aux auditeurs, on se taquine parce que finalement, grâce à cette aventure humaine, je pense qu'il y a une belle histoire d'amitié qui, moi je le dis, après ils le pensent peut-être pas, mais moi je le dis de mon côté, et d'ailleurs ça va sûrement donner lieu à d'autres aventures. On parle déjà de beaucoup de montées de côte, etc. Mais cette aventure humaine, on se charrie parce que du coup on s'entend bien. Mais il y a juste un truc sur lequel je veux dire, parce qu'après je continuerai de le charrier bien sûr, parce que ça m'amuse de le taquiner sur la rapidité de montée, mais ça c'est juste parce que c'est de l'amitié. Mais il faut dire un truc, il y a à l'Assemblée Générale de RCN, donc il n'y a pas si longtemps finalement, j'ai lancé à la cantonade l'idée que j'avais déjà décalé le Ventoux que je voulais monter en fin d'année dernière, et puis on ne peut pas y aller seul. On pourrait, mais ça serait idiot parce que le Ventoux est tellement difficile pour plein de raisons qu'il arriverait n'importe quoi, on ne peut pas y être seul. Et du coup, pendant ce temps, je croyais qu'il téléphonait pour un truc personnel, pas du tout, c'est pour l'instant téléphonique d'après. Et du coup, il faut absolument être à deux. Hein, t'as vu, toi, puis on avait vu dans les médias qu'il y avait eu quelques décès avant notre arrivée. Ouais. Toi, des fois, tu me dis arrête d'en parler parce qu'on dirait que je te fais un compte à revoir. Un décompte des. Mais c'est vrai que finalement, c'était impressionnant pour nous de voir que quand on est arrivé, depuis le mois de juin, il y avait déjà eu 3 décès sur le Ventoux. Donc, on ne peut pas y aller seul parce qu'on ne sait jamais. Hein.
C'est des gens qui sont à vélo, pas à monocycle.
Ouais, en plus. et donc, il était hors de question d'y aller seul. Et j'ai lancé la cantonade à l'Assemblée Générale. Et. Ah oui, parfait. Oui, on a l'insert téléphonique. Ok, dans quelques secondes, on prendra. Ouais, c'est mouvementé la fin d'émission. Et du coup. J'ai lancé et il fallait absolument quelqu'un. Et ce jeune homme-là, Julien, c'est Julien, c'est ça. Je le taquine parce que pendant longtemps, je me trompais de prénom. J'ai découvert qu'il travaillait à la radio, il était déjà depuis 3 ans, en vérité. C'est ça. Et il a tout de suite dit oui, ok. Alors que on avait fait connaissance déjà parce qu'il était gentil, il me faisait toujours mon café avant mes émissions. Ce qu'il ne fait plus depuis qu'on se connaît mieux, je ne sais pas comment.
Ah non,
pourquoi.
Tu mérites plus, ça y est.
Ouais, c'est ça. Et c'est rigolo parce que. Je l'ai vraiment connu un jour, il est venu me voir, il m'a dit « Mais tu montes la pente qui va vers la radio à vélo ? Tu sais que moi, je mets mon vélo dans le bus pour monter. » Et il est quand même passé de cette remarque-là qui m'avait fait rire à « Ah, tu vas dans le Ventoux ? Ah, pour des actions caritatives et tout ? Ok, je t'accompagne. » Et ben mine de rien...
Je ne savais pas à quoi je m'attendais, en fait.
Ouais, mais mine de rien, il a accepté. Ça n'aurait pas eu lieu sans lui. Il s'est entraîné comme un fou jusqu'au Ventoux. On est de temps en temps allé monter la côte de Marron, mais il l'a plus souvent monté. On n'avait pas trop le temps d'être ensemble, on l'a fait quelques fois ensemble. Il s'est entraîné. Il s'est tellement entraîné qu'il s'est même préparé à la chute, puisque 15 jours avant le Ventoux, il a fait un super accident en Allemagne à vélo. Il a fait un soleil.
Enfin, ça, c'était pas prévu.
Il a été recousu, etc., près de l'œil et tout. Il a même travaillé son endurance aux chutes et au rafistolage. Donc, merci.
Bah, merci à toi. C'était une belle aventure quand même.
Et puis, bravo.
Merci.
Bravo, parce que moi, je fais pas beaucoup de vélo, hein, mais j'ai regardé Mont Ventoux, c'est 21 km, 7,5% de pente en moyenne et 1590 mètres de dénivelé positif.
Ouais, donc, elle a travaillé.
j'ai embossé un peu mon sujet et je me suis dit, oulala, mais faut être un pro pour faire ça, il doit falloir s'entraîner et puis avoir une sacrée endurance. Donc moi, je tiens à souligner votre exploit sportif et à vous féliciter tous les deux.
Merci.
Ouais, parce que je le charrie, mais j'avais pas fini, je le charrie, mais à cette heure-ci, là, maintenant, il peut dire, il l'a fait, il a monté 2 fois le Ventoux dans la même journée, et on a croisé beaucoup de cyclistes qui le montaient, mais qui le montaient pas forcément tous 2 fois, hein. Et on connaît plein de gens qui le montent pas d'ailleurs. Donc,
qui le montent en voiture ou en scooter.
Ouais, c'est ça. Je suis embêté, mais en même temps, ça fait très mosaïque là, parce que en même temps, à cause de l'heure, hein, tu connais mon rapport à l'heure, on a en ligne un autre acteur de notre défi. Alors c'est rigolo parce que là tout le monde est réuni. Donc je crois qu'on a Denis. Denis, t'es en ligne ?
Oui, bonjour Saint-Malo.
Alors là c'est génial parce que alors je t'explique. En plateau, on a donc Anne-Sophie Gabrieloff, présidente de France Victime 54. Voilà, qui t'entend, qui est là à côté de moi.
Bonsoir.
Bonjour.
Donc j'explique à ceux qui sont là, donc c'est Denis Bettinger, le président de Raphaël Lorraine. J'ai à ma gauche Julien, donc, que tu as dû voir sur Facebook. Bon, lui il avait un double vélo, il avait 2 roues, donc il a triché. Mais grâce auquel j'ai pu aller. Puisqu'il a fait partie de l'intendance, 100% de l'intendance c'était lui d'ailleurs. Et du coup là, est-ce que tu peux en quelques mots, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, hein, d'être là, et merci pour tous tes messages, etc., pendant le défi. Et comme pour Anne-Sophie Gabrieloff, j'ai tellement parlé de Raphaël Lorraine au sommet du Ventoux, avant le Ventoux, pendant, après, etc., en expliquant pourquoi je le faisais. Tu as dû voir aussi les articles de presse. Mais je n'ai pas forcément, comme pour France Victime 54, bien présenté l'association. Est-ce qu'en quelques mots, ça ne t'embêterait pas de dire aux auditeurs, bah voilà, Raphaël Lorraine, j'en parle beaucoup, mais qu'est-ce ?
Oui, bah, je vais être très rapide. Raphaël Lorraine, c'est une association qui réalise des rêves d'enfants gravement malades et qui organise des activités pour eux. On travaille en direct avec le service de cancérologie pédiatrique de Nancy-Brabois. Et donc, on s'occupe de tous les enfants et adolescents lorrains qui sont touchés par cette maladie. Et depuis maintenant 13 ans, on a réalisé de très nombreuses activités grâce à des mécènes fidèles qui nous soutiennent. Voilà, on a des plus belles choses qu'on a organisées. On a été 5 fois en Laponie pour emmener des gosses voir le Père Noël dans ce pays lointain. On organise très souvent des déplacements aussi à Dinard, où on emmène des gosses faire du catamaran en mer. Et sinon, on organise beaucoup d'actions de proximité aussi, que ce soit avec le zoo d'Amnéville, avec le Parc Sainte-Croix, avec les salles de spectacle, le Zénith de Nancy, le Galaxy d'Amnéville, où on offre des super moments à des enfants qui ont malheureusement beaucoup de moments difficiles à vivre à l'hôpital. Et donc, on essaie d'être pour eux une parenthèse qui leur donne un mental de vainqueur dans ce combat contre la maladie. Voilà. Les qualités qui sont exactement celles que tu démontres quand tu montes le Mont Ventoux et que tu te lances dans différents défis. Tu connais très bien l'hôpital parce que tu y viens très souvent. Et j'adore ton défi parce que c'est vraiment un exemple qui sert à tous les enfants qui te suivent. Ils se disent, si Chamallow il est capable de faire ça, ben nous on est capable aussi de gravir notre Mont Ventoux à nous qui est la maladie.
C'est chouette ce que tu dis parce que c'est ce qu'on a défendu dans l'émission de la semaine dernière avec Michel Adam, le coordinateur du Téléthon. Voilà, le muscle au service du muscle, il dit toujours. Et le Téléthon défend ça aussi, c'est-à-dire des actions sportives, mais pour dire voilà, c'est un signal qu'on envoie effectivement aux vrais héros. Et les vrais héros, bah, ce sont les enfants, leur famille, hein, les parents qu'on peut rencontrer de temps en temps. En vérité, les vrais héros, c'est eux en vérité. Hein, et chapeau bas à tous ces enfants-là que grâce à toi, j'ai pu rencontrer d'ailleurs à plein de moments. Je fais une toute petite parenthèse, mais je me souviens d'un magnifique Noël aux côtés de Marie-Hélène qu'on embrasse à Brabois, où j'avais été faire le clown grâce à toi, avec Victor d'ailleurs, qui s'en rappelle encore. Il m'en a parlé il y a 2 semaines, qui est grand maintenant, mon Victor, mais qui avait aidé un enfant à construire sa boîte de Lego. Et c'est ce que j'aime bien aussi, ça, cette rencontre des enfants avec les enfants, hein, voilà, la rencontre comme ça. Et puis aussi, je peux le dire, là, je vais le dire, j'ai dénoncé Julien, je vais dénoncer Denis, que j'ai en ligne, c'est que Denis m'a fait monter dans un avion sans porte. J'ai dit à Adèle, la semaine dernière, je lui ai dit, te rends compte, il n'y avait même pas de porte. Et il m'a fait monter dans un avion à un ULM, en clown, et j'ai fermé les yeux du début jusqu'à la fin. Voilà. Mais en tout cas, c'était tout ça pour dire que c'était des super moments. J'ai regretté de pas être à vos côtés pour les baptêmes de l'air cette année encore, mais à chaque fois ça tombe mal parce qu'à chaque fois j'ai une petite princesse là qui me dit ça serait chouette d'y aller. Et puis après, ben, comme c'est souvent le jour où elle repart pour quelques temps, alors c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, j'étais avec vous par la pensée et ces moments-là, ce que vous offrez aux enfants, mais c'est magnifique quoi, parce que j'ai vu des sourires à la fois à l'hôpital pour les Noëls, mais les baptêmes de l'air. Voilà, tu fais partie de ces personnes. Voilà. Qui moi me donne envie de faire les actions parce que on parlait tout à l'heure, hein, je suis avec France Victime 54, donc tu te doutes que les thèmes qu'on vient d'aborder n'étaient pas faciles et il y a comme ça une vision de la nature humaine et puis du monde qui nous entoure qui n'était pas encore très parfaite, mais tu fais partie de ces personnes qui, voilà, un peu ce que dit Albert Camus, quoi. Il y a des personnes qui nous, voilà, qui nous donnent envie de croire en l'humanité et tu fais partie de ces personnes-là avec un cœur immense. Et voilà, j'espère qu'on se croisera rapidement dans des actions,
ben, j'espère aussi,
et même dans les studios. En tout cas, je dis aux auditeurs, voilà, allez à la rencontre de Raphaël Lorraine. Hein. On peut comment, la site internet ?
Oui, on a un site internet, on a un Facebook. Bon, on est très présent sur les animations. Ce week-end, on va être présent à Chamblay sur une manif de truck et de voitures tuning. On sera présent aussi à l'hôpital de Brabois le 17 septembre, parce qu'il y a une grande journée hospitalière organisée dans le cadre de Septembre en Or, puisque Septembre en Or, c'est le mois du cancer pédiatrique. Mmh. Donc, toutes les associations sont très visibles durant ce mois de septembre. Et puis, voilà, sinon, on est là à divers endroits, mais surtout toujours à proximité de l'hôpital pour suppléer Marie-Hélène, qui est la plus proche des enfants malades. Et ce week-end, je vais partir d'ailleurs sur Vincennes avec, avec 5 enfants pour leur faire vivre une journée dans l'univers du cheval de Troie. On a été invité par, par la fédération équestre et ils vont vivre quelque chose d'assez exceptionnel puisqu'ils vont pouvoir faire du cheval de Troie en duo dans des sulkies, ils vont aller voir les élevages, ils vont discuter avec les jockeys, les entraîneurs. Ça va être un super séjour ce week-end qu'on est en train d'organiser.
Ah, génial. Puis d'ici le 17 septembre, tu nous rediras quelques mots, on en parlera. Puis je t'enverrai un message par rapport à Orantène. C'est mercredi 17 septembre.
Ouais. Mercredi 17 septembre, c'est toute la journée, une journée septembre en or à l'hôpital, avec l'AREMI qui essaye de faire un lien avec toutes les autres associations pour que nous venions tous amener du réconfort aux enfants hospitalisés le 17 septembre.
Bah, on en reparlera hors antenne, je t'enverrai un petit SMS, parce que moi le 17 septembre c'est un mercredi, je suis libre l'après-midi, si jamais il y a moyen de venir te croiser, te saluer et puis faire quelques ballons clownés.
Tu seras le bienvenu, en tout cas tu sais que ta présence est toujours... C'est toujours quelque chose de très précieux parce que tu viens avec ton sourire, avec tes couleurs vives, avec voilà, tu amènes de la vie, tu amènes de la joie, donc c'est toujours le bienvenu.
Bah t'es très gentil. En tout cas, bah, je te recontacte en antenne. Puis t'as parlé de Guy, mon ami Guy de la Rémy, qui ça me fait plaisir, on l'embrasse. Merci beaucoup d'avoir été en ligne, Denis. À très très vite.
Bah, merci beaucoup de ton invitation et au grand plaisir de se revoir.
Ouais, à bientôt. Ouais, je t'enverrai bien sûr, et je dis aux auditeurs, on retrouve sur Facebook les photos, les vidéos avec la banderole Raphaël Lorraine, bien sûr, au sommet du Ventoux. Hein. Voilà. Merci Denis, à très très vite. Hein, je t'embrasse.
Avec grand plaisir. Bonne soirée à tous les invités.
Et à bientôt. Merci. Tout de suite, mais c'est Jean-Luc qui va nous dire s'il est OK. Sinon, on coupera au montage. Est-ce qu'on peut lancer là Alain Souchon pour Anne-Sophie Gabrieloff, et après, est-ce qu'on aura encore assez de temps pour échanger un peu avec Julien? Si c'est OK, tu peux lancer le Souchon. Yes.
D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale. La soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Sentimental, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Schiffer, on nous pollue ou solidaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mouquère. Du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain.
à cheval, foule sentimentale.
Et voilà, on doit arrêter le bel Alain Souchon qui m'a accompagné dans la montée du Ventoux dans certaines phases. Merci beaucoup pour cette belle musique, Anne-Sophie.
C'est Souchon qu'il faut remercier.
Mmh. Ouais, mais quand même, c'est de la poésie, c'est du Victor Hugo de la chanson, je dis toujours. Julien, on va pas développer, on développera, on fera toute une émission.
Oui.
Mais ça me fait plaisir que tu sois là avec France Victime 54. Mmh. Voilà. Comme ça, j'ai fait rencontrer les deux acteurs majeurs de ce beau défi. Merci. Et de toute façon, on dit aux auditeurs, cette histoire, hein, on va la poursuivre.
Ouais, bah oui.
T'es d'accord?
Ah bah, il y a une suite.
Il y a une suite. Au prochain épisode.
J'attends le prochain défi.
Et les dernières minutes. Ah ouais, bah, j'espère. Un petit tour malais, quelques trucs en Alsace. On dit rien encore. On va s'amuser, ouais. Et du coup, d'ailleurs, on vous réempruntera la banderole pour le tour malais.
Merci.
Anne-Sophie Gabrieloff, quelques mots avant la fin de l'émission. C'est toujours trop court quand je vous reçois, mais merci encore d'être venue dans notre petite radio modeste parler de tout ça. Je crois qu'il y a un point que vous voulez aborder sur les dernières minutes d'émission.
Oui, terminer sur une note peut-être aussi positive, hein, c'est-à-dire que, comme pour la maladie, quand on est victime, on peut se reconstruire. Il y a cette capacité de résilience, d'aller jusqu'au bout du parcours judiciaire et de reprendre une vie après avoir été victime notamment de violences. Et cette année, on a mis en place une session de justice restaurative. Alors, la justice restaurative, beaucoup de gens l'ont découvert avec le film « Je verrai toujours vos visages », où en fait, on fait rencontrer des personnes condamnées avec des personnes victimes. Et l'idée, c'est que la victime puisse comprendre l'auteur et que l'auteur se rende compte de l'impact de ce qu'il a fait sur les personnes victimes.
Ah, c'est bien. Oui, ouais. Ah oui, ça ne va pas être facile non plus ces moments-là, mais...
Ça se prépare.
C'est
le film est touchant aussi.
Ah, tu l'as vu?
Je l'ai vu, ouais.
Ah ouais?
Beau film.
D'accord. Ah ouais, non, c'est chouette. Mais c'est bien qu'il y ait ce double aspect. Essayer d'améliorer aussi l'humanité, enfin je veux dire la personne qui a commis les choses difficiles, c'est bien aussi. Donc,
Un des objectifs, c'est aussi d'éviter la récidive.
Oui, bien sûr.
Et ouais. Cette prise de conscience de l'impact de l'acte de la victime, sur la victime, c'est très important.
Merci. C'est toujours
merci
trop
à vous,
cool.
Je reviens quand vous voulez.
Et France Victime 54, n'oubliez pas, tout ça, vous pouvez retrouver les coordonnées et tout et tout et tout. À très bientôt. Merci Jean-Luc à la technique. Merci Julien.
Avec plaisir.
Merci et bravo
beaucoup.
À vous deux.
Merci.
Merci. À bientôt.